affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans un texte célèbre, l'écrivain anglais Chesterton souhaitait que les Européens observent le catholicisme avec un regard neuf, bienveillant et curieux, comme ils le font spontanément pour les religions ou les croyances les plus exotiques. Peut-être ce temps est-il venu, puisque très largement déchristianisés, les Européens peuvent désormais porter un regard plus juste sur la religion de leur père. Mais encore faut-il qu'ils désirent la connaître, qu'ils puissent aborder ce continent inconnu, cette planète lointaine dont la lumière nous parvient encore. C'est ce que nous propose Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, dans un ouvrage de géographie culturelle et même de géographie spirituelle, justement titré « La planète catholique » et récemment paru chez Taillandier. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous.
Catholique voulant dire universel, on aurait pu spontanément penser que le catholicisme serait la religion de la sortie de la géographie, et pourtant non, il existe bien une géographie du catholicisme. Pouvez-vous nous en donner les grands contours ?
Il y a une géographie pour plusieurs raisons. D'abord parce que les catholiques ne sont pas partout à la surface de la Terre, qu'il y a bien des régions qui ne sont pas catholiques. Donc ma première préoccupation en tant que géographe, c'est-à-dire adepte ou pratiquant d'une discipline qui cherche à expliquer pourquoi les choses sont ici et pas ailleurs, donc j'ai cherché à comprendre pourquoi les catholiques sont traditionnellement surtout localisés au nord-ouest de l'Europe, et au sud des États-Unis, le nord-est étant, comme vous le savez, donc orthodoxe, le nord étant protestant, et cette division entre le monde protestant d'une part et le monde catholique au sud-ouest d'autre part se retrouve en Amérique du fait de l'histoire coloniale, dont vous avez plutôt des protestants aux États-Unis et au Canada, et plutôt des catholiques à partir du Mexique jusqu'à la Terre de Feu. Donc j'ai cherché à expliquer cela. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est pas une chose très, très simple à expliquer, et en particulier cette limite entre l'Europe catholique et l'Europe orthodoxe, c'est facile parce que ça tient au grand schisme. Donc là on le comprend. Mais entre l'Europe catholique et l'Europe protestante, la frontière est plus compliquée à expliquer, mais en gros, c'est la thèse que je défends, elle correspond à quelque chose près, avec beaucoup d'exceptions quand même, mais elle correspond au limès de l'Empire romain. C'est-à-dire que les régions anciennement, les régions du sud qui ont été romaines, sont restées catholiques, tandis que les régions du nord, qui étaient devenues catholiques à l'époque où il n'y avait qu'une forme de christianisme catholique en Europe de l'Ouest, ont finalement basculé dans la réforme parce que les vieilles religions germaniques avaient été mal effacées. Et on retrouve dans les différentes voies de la réforme pas mal d'idées qui viennent des vieilles religions germaniques. Alors pour le reste, les catholiques, on les trouve aux Philippines parce que ça a été une colonie espagnole. On les trouve dans un certain nombre d'autres régions de la planète où il y a eu de la colonisation espagnole, française, portugaise. Mais dans les pays qui ont été colonisés ou influencés par l'Angleterre, puis après les États-Unis, on trouve des protestants. Et puis il y a des régions qui ont basculé dans l'islam dès le 7e siècle ou un peu plus tard, qui le sont restées. L'islam a été expansif et a finalement éradiqué le christianisme. Et des régions qui sont restées profondément ou hindouistes ou bouddhistes ou encore, pour certaines régions de la planète, animistes. Donc c'est ça une des premières choses. La deuxième... Pardon, je suis peut-être trop long.
Non, il faut poser le cadre.
Le deuxième aspect, c'est que, comme vous dites, le catholicisme se veut universel, est universel par définition, et n'a qu'un chef sur Terre qui est le pape, représentant de Dieu sur Terre, successeur du Christ, et les évêques en lien avec lui, successeurs des apôtres. Néanmoins, le catholicisme revêt bien des formes, dans la liturgie, dans certains aspects, non pas de la foi profonde, puisqu'elle est unique, mais de la morale, etc., qui sont liés au contexte culturel de ces pays. Donc c'est ce qui rend la géographie du catholicisme si complexe, et surtout, c'est une géographie extrêmement mouvante, parce qu'il y a beaucoup de régions, d'abord la pratique catholique dans presque tous les pays du monde a beaucoup baissé. Il y a les pays où elle se maintient, voire où elle progresse, comme aux Philippines ou quelques contrées d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Mais partout en Europe, elle diminue jusqu'à des proportions très très basses, puisque en Europe occidentale, on est à moins de 5% de pratiques religieuses chez les catholiques. Néanmoins, comme toujours, les fortes marques culturelles, même lorsque elles tombent en désuétude ou en déshérence, restent visible, un peu comme dans les paysages ou comme, pour ceux qui s'intéressent à la paléographie, dans les manuscrits sur parchemin. Auparavant, comme le parchemin coûtait cher, on effaçait des textes qui étaient inutiles et on réécrivait les textes par-dessus. Et on peut lire en filigrane le texte ancien, ce qu'on appelle un palimpseste. Et je crois qu'en matière culturelle et religieuse en particulier, il y a des palimpsestes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la culture française d'aujourd'hui, pour prendre un pays de tradition catholique, on ne peut pas comprendre la culture française d'aujourd'hui sans savoir que c'est un pays qui a été de culture catholique très, très fortement ancrée et d'une religion très pratiquée. Voilà, donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir ce qui reste de tout ça. Et en tant que géographe, il y a plein d'aspects qui sont encore visibles aujourd'hui dans les pratiques morales, les pratiques politiques, la relation à l'argent, les paysages qui viennent du catholicisme.
Mais nous allons...
On va peut-être en parler.
Nous allons parler de tout cela. Ce que signifie, c'est que le catholicisme a marqué de son empreinte un certain nombre de territoires, et en retour, ces territoires ont une certaine empreinte sur le catholicisme. Ça fonctionne dans les deux sens.
Alors, oui, c'est évident que les cultures antérieures ont une empreinte sur le catholicisme. Et c'est évident qu'on ne pratique pas le catholicisme de la même façon en Sicile et en Alsace, pour prendre deux régions, encore que l'Alsace était un pays partagé entre protestants et catholiques, mais en Bretagne, par exemple, puisque la Bretagne était de tradition très, très catholique. Et c'est pas tout à fait les mêmes formes, ce ne sont pas les mêmes structures familiales, parce que le catholicisme n'a pas tout effacé de structures antérieures. Et donc, par exemple, dans le catholicisme breton traditionnel, il y avait beaucoup d'influences celtiques. Je ne prends qu'un seul exemple qui me vient à l'esprit, là, puisque vous m'interrogez sur ce sujet. La Bretagne est couverte de chapelles minuscules, dispersées un peu partout, au bord du littoral, dans les forêts, au bord des sources, etc., qui sont évidemment des lieux de culte celtiques très anciens, qui ont été habillés de christianisme et de catholicisme, mais de saints qui n'ont pour beaucoup d'entre eux jamais existé, qui sont des vieilles divinités celtiques repeintes, si je puis dire. Bon, donc ça, c'est vraiment la trace, dans un aspect certes mineur, de la religion, mais qui existe et auquel les gens sont très attachés, la trace de structures culturelles antérieures à la christianisation.
Donc il n'y a plus ni juifs ni grecs, mais il reste encore des bretons, des
alors
alsaciens.
Ça, c'est pas seulement catholique, ça, cette phrase bien connue de saint Paul, il n'y a plus ni homme ni femme, ni homme libre ni esclave, ni juif ni gentil, vous êtes tous saints dans le Christ, c'est le leitmotiv du christianisme, c'est la définition même du christianisme. N'importe qui peut devenir chrétien, le christianisme est ouvert à tous. Et le catholicisme, c'est vrai dans le catholicisme comme dans le protestantisme, dans les différentes voies du protestantisme ou dans l'orthodoxie. Donc, et ça, l'islam l'a gardé, par exemple. N'importe qui peut devenir musulman, quelles que soient ses origines ethniques, quelle que soit sa religion antérieure, alors que n'importe qui ne peut pas devenir juif. Ça, c'est une des différences majeures au sein des monothéismes. Il y a d'une part les chrétiens et les musulmans, d'autre part les juifs. On peut toujours se convertir au judaïsme, mais c'est très, très compliqué.
Oui, c'est peut-être une des choses qu'il faut rappeler au départ. C'est qu'une religion universelle faite pour tous les hommes, c'était loin d'être une évidence au départ.
Eh bien oui, parce que le christianisme est l'accomplissement, si je puis dire. Alors, les juifs ne l'acceptent pas avec ce mot, mais c'est l'accomplissement du judaïsme, des promesses faites par Dieu au peuple élu. Mais à partir du moment où le Messie est venu sur Terre, Et personne ne savait sous quelle forme ce serait. Il y a bien des prophéties, mais qui aurait pu interpréter clairement les prophéties en disant « ça va se passer comme ça ». Et alors, en particulier, pour les croyants, que ce soit un petit bébé qui naît dans la pauvreté, dans une étable, etc., et qui est le Fils de Dieu, incarné, né d'une vierge, etc., c'est totalement invraisemblable. Et les Juifs, beaucoup de Juifs, ont eu tellement de mal à l'accepter qu'ils n'y ont pas cru. Et qu'ils attendent toujours le Messie. Mais il y a cette idée, c'est qu'à partir, pour un chrétien qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, incarné, à ce moment-là, il n'y a plus de peuple élu. Le peuple élu a fini son rôle. Le peuple élu, c'est tout le monde. L'humanité entière devient le peuple élu et a droit au salut. Et il n'y a plus de différence. C'est ça, cette phrase extraordinaire de saint Paul qui est profondément ancrée dans le christianisme et dont il y a, on peut retrouver dans les évangiles, dans les paroles du Christ, exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde. Pour les pécheurs, comme pour les gens formidables, pour les saints, etc. Tout le monde a droit au salut. Le salut est pour tout le monde. Et là, on tombe sur des différences, mais peut-être j'anticipe, importantes entre la voie catholique et les voies protestantes, et surtout la voie calviniste, c'est que dans le catholicisme, il n'y a aucune prédestination. Le salut est pour tous. Dieu ne décide pas à l'avance, tiens, ben celui-là, je vais le sauver, et celui-là, je ne vais pas le sauver. Et ça donne une espèce d'optimisme fondamental, même si on est dans la misère, même si on est pauvre, si on est malade, si on a tous les malheurs du monde qui fondent sur vos épaules, il y a cette espérance fondamentale, c'est celle d'être sauvé. Et d'être sauvé un peu par soi, et pourquoi pas, par ses œuvres, mais beaucoup par la grâce. Et pas seulement par la grâce. C'est ce mélange de Dieu et de l'humain qui est au cœur, je crois, de la foi catholique et qui a un certain nombre de conséquences qu'on retrouve sur le plan politique, qu'on retrouve sur le plan économique dans les pays de tradition catholique.
Alors justement, c'est une différence qui est souvent mise en avant, y compris même par certains responsables politiques contemporains, lorsqu'on décrit le comportement économique des Français, c'est qu'ils seraient moins entreprenants, avec beaucoup plus de réticence à l'égard de l'argent que les protestants, moins industrieux. Qu'en est-il ?
Alors, je me suis beaucoup torturé pour répondre à cette question, parce que d'abord, je suis géographe et pas économiste, que j'avais lu Weber il y a longtemps, et que Weber est par certains adulé comme étant l'un des plus grands sociologues, par d'autres détesté comme étant simpliste. Donc, j'ai essayé de creuser cette question. Elle est très compliquée. D'abord, ça varie aussi d'un individu à l'autre, mais il y a quand même des fortes tendances. Dans l'ensemble, il est vrai que les pays protestants sont plus prospères de tradition protestante, qu'ils soient pratiquants ou pas, hein, mais sont plus prospères que les pays catholiques, et à plus forte raison que les pays musulmans et les pays animistes ou hindouistes. Ça se constate, il suffit de voir les PNB par pays. Deuxièmement, je pense que la relation à l'argent des catholiques reste aujourd'hui encore assez problématique, y compris dans la haute hiérarchie et y compris jusqu'au Vatican, surtout en ce moment avec le pape François, c'est qu'il y a cette idée que l'argent est corrupteur, que l'argent est sale, que comme on ne peut pas servir Dieu et Mammon, eh bien, il vaut mieux éliminer Mammon tout de suite. Mammon, c'est l'argent. C'est pas le Satan, c'est l'argent. Mais ça ne veut pas dire que les protestants, je pense, ont dans l'ensemble une vision plus équilibrée, plus épanouie des choses. L'argent n'a pas, vous connaissez cette phrase, l'argent n'a pas d'odeur. Pour un catholique, elle en a, souvent. Un catholique, même pratiquant. Bon. Et pour un descendant de catholique, encore plus. Par exemple, vous me permettez de citer un nom, parce que cette phrase m'avait beaucoup frappé quand cette personne importante dans l'histoire de notre 5e République l'a prononcée. C'est l'ancien président François Hollande, dans la campagne électorale avant son élection, au cours d'une émission, dit trois fois de suite « Je n'aime pas les riches, vraiment, je n'aime pas du tout les riches, je n'aime pas les riches. » Bon, et ça... Pour moi, alors lui qui est socialiste et qui ne va pas à la messe tous les dimanches, je crois, mais qui a dû être enfant de cœur quand il était petit, ou qui vient d'une famille où il y a de tradition catholique, pour moi, cette phrase est typiquement catholique. Quand Chesterton dit que le monde est plein de valeurs chrétiennes dévoyées ou mal comprises, ça c'en est un bon exemple. En revanche, je connais un certain nombre de protestants, puis j'ai rassemblé dans ce livre un certain nombre de citations et d'écrits qui montrent que un protestant convaincu ou de tradition protestante, qui peut être athée aujourd'hui, mais qui a été élevé dans l'éthique et la morale protestante, a une relation beaucoup plus simple et épanouie à l'argent. L'argent n'a pas d'odeur, très joli proverbe, et ça, tout dépend de l'usage qu'on en fait. On peut être très riche et en faire profiter, investir, en faire profiter les pauvres, partager, penser à l'avenir, etc. Mais cette peur panique qu'ont les catholiques, que beaucoup de catholiques vis-à-vis de l'argent, est quelque chose qui reste encore très ancré. Alors cela dit, et c'est aussi un autre aspect que j'aurais peut-être dû dire en premier, la révolution économique, l'invention de la banque, de l'assurance, du prêt à intérêt, ce ne sont pas les protestants qui l'ont inventé. Ça vient des villes marchandes d'Italie du Nord et des Flandres, et c'est bien avant la Réforme. Donc dire que ce sont les protestants qui ont tout inventé en matière de le capitalisme, non, c'est absurde. Le capitalisme, il a été inventé à Venise, à Florence, à Gênes,
à Bruges,
à Gand, etc. Donc ça, c'est ce qui rend la réponse à votre question si compliquée, parce que de même que on interprète trop facilement la somme théologique de saint Thomas d'Aquin comme étant un brûlot contre le prêt à intérêt, non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. On a le droit de gagner de l'argent avec de l'argent, sauf si c'est sur l'essentiel et si c'est au détriment des pauvres. Mais si c'est de l'argent qu'on investit dans, dans du transport, dans de l'achat de marchandises qu'on revend avec intérêt, on a tout à fait le droit de gagner de l'argent. Mais ces textes ont été un peu appauvris, simplifiés, et donc il y a une sorte d'opprobre jeté sur l'argent dans la tradition catholique de beaucoup de pays. Et par exemple, je termine par là, pardon, je suis encore un peu long, mais le pape François, aujourd'hui, qui est un pape latino-américain, d'origine italienne, certes, mais vraiment latino-américain, sans doute quand même un peu influencé par la théologie de la libération, qui a été très en vogue dans sa génération, hein, compte tenu de son âge. Beaucoup des jeunes prêtres, je ne sais pas quelle était sa sensibilité quand il était jeune, mais ont été très influencés par la théologie de la libération, compte tenu des inégalités flagrantes et dramatiques, il faut bien le reconnaître, qui existent en Amérique latine. Et donc, son attitude vis-à-vis de l'argent, par ses écrits, qui sont des écrits souvent à l'emporte-pièce, hein, improvisés parfois dans les avions, montre qu'il a une vraie réticence sur ce sujet.
Et le travail, c'est un autre versant de ce problème, non ? Le regard porté sur le travail.
Oui, alors là aussi, les catholiques ont toujours eu un petit souci. Ils ont interprété au premier degré les textes de la Genèse. Le travail, c'est la conséquence du péché originel, c'est la conséquence du péché, tout simplement. Donc c'est un drame.
C'est une punition.
C'est une punition. Donc le loisir, c'est bien mieux que le travail. Les orthodoxes sont un peu comme ça aussi, souvent. Hein, c'est la même interprétation. On trouve plein de points communs entre le catholicisme et l'orthodoxie, plus qu'avec la réforme.
Est-ce qu'il n'y a pas des questions de tempérament aussi, de tempérament national ou culturel ? C'est-à-dire que quand on parle de l'attitude à l'égard du travail ou à l'égard de l'argent, j'ai presque plus l'impression d'entendre une mentalité aristocratique que foncièrement catholique, mais je trouve que les deux sont un peu...
Non, mais vous avez plein d'aristocrates. On a passé il y a quelques jours un documentaire à la télévision sur Vauban, dont je connaissais l'histoire, mais on a bien montré quand même ce personnage qui a eu la vie privée que l'on sait, mais en même temps qui était profondément catholique et profondément monarchiste aussi, vraiment serviteur de la France, du roi, de Dieu, etc. C'était un travailleur fou, acharné et avec jubilation. Plus il travaillait, plus il était heureux. Donc quand on voit ce qu'il a fait dans sa vie, de construire ce nombre incroyable de fortifications, de bâtiments, plus écrire des milliers de pages passionnantes, vouloir réformer la fiscalité, etc. Donc, et c'est pareil, il y a quand même beaucoup de catholiques qui ont pas mal travaillé, hein, qu'ils soient pratiquants ou pas. Donc c'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est vrai que dans le monde protestant, que je compare volontiers à l'univers que je fréquente par ailleurs depuis longtemps, qui est le monde confucéen et d'Extrême-Orient, le travail est plutôt libérateur, beaucoup plus spontanément. Mais en France, alors, pays héritier du catholicisme, mais avec des syndicats, comme vous savez, très puissants, il y a une idée incroyable qui vient de Marx, en réalité, mais qui a eu un très grand succès en France, c'est que le travail est une souffrance épouvantable, est un esclavage, que de travailler, c'est forcément au service du grand capital et de patrons qui sont injustes, etc. Par conséquent, on est le seul pays en France, et ça vient bien de la vieille tradition catholique, où on a eu, en 1981, un ministère du temps libre. Vous imaginez, un ministre du temps libre. Bon, il y avait aussi un ministre du travail, quand même. Enfin, il était moins bien vu que le ministre du temps libre. Ça n'a pas duré longtemps. Après, on l'a supprimé parce qu'on a trouvé que c'était un peu gadget.
Cela dit, c'est l'évolution du regard catholique sur le travail, sur le monde économique et autres, continue à perpétuer cette grande méfiance, voire même ça s'accentue, non ? J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'inflexion depuis la doctrine sociale de l'Église, qu'il y a un certain nombre d'inflexions ces dernières années, qui ne vont pas dans le sens d'une réhabilitation.
La doctrine sociale de l'Église est très claire. Si, le travail est très bien vu, le travail est nécessaire, et la doctrine sociale a toujours dit qu'il fallait essayer d'alléger les souffrances liées au travail, donc éviter le travail des enfants, le travail manuel trop dur des femmes, etc. Tout ça, c'est dès le 19e siècle qu'on trouve ça. Jamais l'Église n'a dit qu'il ne fallait pas travailler et que c'était bien d'être oisif, au contraire. Donc, n'oubliez pas quand même que la doctrine monastique de la règle de Saint Benoît, c'est ora et labora, prie et travaille. Et travail manuel comme travail intellectuel. Et le reste du temps,
il y a tel point que certains y voient maintenant le bonnet de l'entreprise, d'ailleurs.
Oui, le travail dans la doctrine catholique n'est pas du tout vilipendé, mais les catholiques, y compris des très bons catholiques, très croyants, pratiquants, n'ont pas une haute idée du travail. Et donc, regardez dans un pays comme la France, pardon de prendre trop d'exemples en français, mais je crois que les Italiens sont à peu près pareils, l'importance qu'ont les vacances. Alors ça a commencé avec les congés payés, ça remonte maintenant à 1936, hein, il y a plus de 80 ans, mais beaucoup de Français, même s'ils n'ont pas un travail harassant sur le plan physique et usant, ils travaillent au bureau par exemple, ne sont pas fous de leur travail, même si ce n'est pas un travail inintéressant, et rêvent aux vacances. On rentre du week-end, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain ? Le lundi, c'est pas un jour heureux. Hein. Les Français font la tête le lundi dans le métro. D'ailleurs, je les compare aux Italiens, c'est pas sûr. Je pense que les Italiens, me semble-t-il, ont une vision, même s'ils sont pas aussi un petit peu plus pratiquants que les Français, mais guère plus, mais ont une vision un peu plus épanouie du labeur, du travail, sont moins révoltés au fond d'eux-mêmes, d'une part vis-à-vis du travail, d'autre part vis-à-vis des inégalités. Pour un Français, et ça c'est peut-être plus typiquement lié à l'histoire politique française qu'à la religion catholique, l'inégalité est une injustice profonde. Et que les Français vivent très 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 mal. Et les Français sont profondément marqués par l'idéologie égalitaire, peut-être plus que les Russes, qui ont pourtant été 80 ans communistes, mais je ne suis pas sûr que dans la mentalité russe, on ait une telle passion pour l'égalité. En France, c'est une vraie passion. D'ailleurs, c'est dans notre devise nationale, mais égalité, c'est l'égalitarisme. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que tout le monde soit au même niveau. C'est profondément ancré, mais je crois que ça vient plus de notre histoire politique et sociale que de notre fond catholique.
Dans ce tableau des Français, même si ce n'est pas l'unique sujet, il y a quelque chose qui, en revanche, n'est pas du tout catholique. C'est une forte baisse de morale qui se rapproche. Peut-être, vous parliez des Français qui tirent la tête dans le métro. Nous semblons une nation pessimiste, voyant l'avenir de façon très anxieuse, ce qui n'a pas toujours été le cas et qui n'est pas dans la matrice catholique.
Non, au contraire. Non, ça, c'est plutôt la conséquence de l'abandon de tout idéal spirituel. Je ne parle même pas de religion. Mais beaucoup de gens, mais pas seulement en France, hein, c'est vrai dans toute l'Europe, aux États-Unis et dans bien des pays du monde, ne savent plus très bien quel est leur idéal dans la vie, quelles sont les valeurs auxquelles ils se rattachent, au fond, à quoi ça sert de naître, et à quoi ça sert de prolonger la vie. Y a donc, je trouve en ce moment, un pessimisme assez fort en Europe et en particulier en France, qui rend pas la vie très, très joyeuse et qui rend pas non plus la vie sociale très joyeuse, parce que fréquenter voir travailler avec des gens qui ont le moral dans les chaussettes, pardon, c'est pas très agréable. Et il faut tenir. Alors, on peut toujours dire, oui, mais regardez le monde, comment il va, regardez la planète, etc., le climat, les guerres, Monsieur Poutine et Monsieur Xi Jinping et Monsieur Erdogan, le monde n'est pas joyeux, donc il n'y a pas de raison d'être optimiste. En même temps, on sort d'un siècle, le XXe siècle, ça fait 20 ans qu'on en est sorti, mais moi, je n'ai pas connu ça, parce que je suis né juste après la Seconde Guerre mondiale, mais enfin, j'ai des parents qui ont connu la Seconde et la Première Guerre mondiale dans des circonstances absolument dramatiques. Donc, la vie qu'on a pu mener pour la génération du baby-boom et après, sur le plan de la dureté des conditions de vie, est sans commune mesure avec ce qu'ont connu nos parents et nos grands-parents. Je parle en moyenne, hein, bien sûr, toujours eu des privilégiés, mais ce qui manque aujourd'hui, vraiment, je pense profondément, et c'est ce qui peut faire disparaître l'humanité de la Terre, bien plus que le climat, ce sont des raisons de vivre, tout simplement. Donc la religion en est une, mais il n'y a pas que la religion. Hein.
On peut avoir d'autres.
Comment ? Une espérance. Et pour moi, je reproduis volontairement, parce que c'est un texte qui est superbe, l'acte d'espérance de la religion catholique, l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité, l'acte de contrition, que les catholiques ne récitent plus beaucoup aujourd'hui, qui sont des textes, des pierres de fondation de ce qu'est la mentalité, la culture catholique. Et encore, je ne fais pas ici un panégyrique du catholicisme, hein, mais il faut comprendre ce qu'a été, dans les circonstances aussi difficiles que celles que notre pays ou notre Europe occidentale a traversées au fil des siècles, des socles d'espérance majeurs.
Ah, vous nous décrivez aussi une religion finalement assez joyeuse, loin du tableau qui en est fait habituellement. On en voit habituellement, on la dépeint sous les traits d'une religion essentiellement punitive, qui rejette le corps et le plaisir. Votre tableau va totalement à l'inverse.
Oui, alors j'ai essayé de montrer que ça aussi, comme pour l'argent, c'est une mauvaise interprétation et des évangiles, voire de l'Ancien Testament, puisque maintenant on lit l'Ancien Testament. Les catholiques, avant le Concile, ne lisaient pas l'Ancien Testament, maintenant ils le lisent. Mais c'est une mauvaise compréhension des Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, des Pères de l'Église et de beaucoup de textes théologiques. Alors jamais, c'est vrai, dans le catholicisme, on a prôné un laisser-aller absolu au plaisir des sens. Mais jamais on a condamné en eux-mêmes le plaisir des sens. Je ne sais pas si vous avez vu, le pape François a donné une interview qui vient d'être publiée en Italie sous forme d'un petit bouquin à un personnage étonnant qui s'appelle Carlo Petrini, qui est le fondateur du mouvement Slow Food. C'est un anarchiste plus ou moins trotskiste, mais qui défend les produits agroalimentaires de qualité, qui a fait un travail extraordinaire autour de la production, de la qualité agroalimentaire en Italie et dans le monde, parce que c'est un mouvement mondial maintenant. Et alors, le pape a voulu le rencontrer et a répondu à ses questions. Et le Petrini l'a mené sur le chemin, justement, de cette question que vous me posez, du plaisir. Et le pape a répondu, mais attendez, évidemment que le catholicisme, le plaisir est au cœur du catholicisme. D'ailleurs, le plaisir vient de Dieu, et il ajoute, le plaisir sexuel comme le plaisir gastronomique, ça vient de Dieu et c'est totalement légitime. Simplement, ça doit être bien maîtrisé, ça doit être ordonné à des fins. Donc c'est là. Mais déjà, pourtant, Dieu sait si on a qualifié Benoît XVI de puritain, de pape punitif, etc. Il a écrit des pages magnifiques sur la réconciliation d'Eros et d'Agapé, c'est-à-dire l'amour physique et l'amour avec un grand A, amour humain, amour de Dieu, et les deux vont ensemble. Les deux vont absolument ensemble. Et moi, je me suis intéressé un peu aux questions de gastronomie et de vin, et je trouve que, rappelez-vous, dans les évangiles, Jésus, à qui on reproche de passer du temps à table, d'aller chez Nicodème, les noces de Cana, etc., dit, mais comment, attendez, vous avez condamné Jean-Baptiste, c'est-à-dire son cousin, parce qu'il mangeait des sauterelles et qu'il mangeait du miel, donc il mangeait rien. Et puis maintenant, vous condamnez le Fils de l'homme, comme il s'appelle lui-même, qui mange et qui boit. Jésus, alors on ne le voit pas, il n'y a pas de plaisir sexuel décrit dans les évangiles, et semble-t-il, Jésus est resté chaste et vierge jusqu'à sa mort, mais le plaisir de bien manger et de bien boire, il est là, ô combien. dans les évangiles. Et le plaisir aussi du contact humain, des enfants, du bavardage pour le plaisir. Rappelez-vous, si vous connaissez cet épisode à Capharnaüm, où Jésus est chez Marthe et Marie et Lazare, et puis Marthe s'agite, fait la cuisine, fait le ménage, et Marie regarde les yeux grands ouverts Jésus, assise par terre, et l'écoute. Et Marthe dit, quand même, t'exagères, tu me laisses faire tout le travail. Et toi, tu as l'air de t'amuser. Et Jésus dit, mais attends, c'est elle qui a raison. Moi, je serai pas là, vous m'aurez pas tout le temps. Elle a mille fois raison. Assieds-toi et puis arrête de t'agiter, ça ne sert à rien. Et ça, c'est typiquement, en plus, c'est cette espèce de spontanéité méditerranéenne qu'on retrouve, mais qu'on lit pas, on lit rarement les évangiles comme ça. Et si on les lit de manière humaine et culturelle, on s'aperçoit qu'il y a un contexte culturel, que Jésus devait, comme mon cher confrère, le grand rabbin de France, qui ne cesse de faire des blagues, de raconter des blagues juives, ben, je trouve ça formidable. Je suis sûr que Jésus racontait des blagues juives, évidemment. Donc on n'a pas assez mis en valeur cet humour de Dieu. Il y a plein d'humour, même dans l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament, il y a à la fois de la colère. Traversé de sentiments, mais que par une espèce d'angélisme mal placé, on a tendance à éliminer. Moi, parce que je suis un géographe et que j'aime les paysages, j'aime toucher les choses, j'aime utiliser mes cinq sens, je me représente les odeurs, les paysages, et c'est fondamental. Pascal l'a dit, pourtant Dieu sait si. Pascal passe aussi pour un puritain, et qui veut faire l'ange fait la bête. Donc, nos cinq sens, si on est croyant, nos cinq sens viennent de Dieu. Et Dieu a magnifiquement utilisé ses cinq sens tout au long de son histoire éternelle.
De fait, répudier les sens pour une religion de l'incarnation, ce serait une sorte de contresens.
Exactement. Et oui, tout à fait. L'incarnation, ça veut dire quelque chose. Mais au fond, est-ce que les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants ou orthodoxes, est-ce que l'incarnation ne leur fait pas peur? Au fond, c'est un si grand mystère. C'est comme l'incarnation, mais bien sûr aussi la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui se sacrifie, qui meurt pour les péchés de l'humanité? Enfin, c'est invraisemblable, invraisemblable. Donc l'incarnation est un mystère. Et une des choses qui, moi, me frappe dans le catholicisme, c'est que les catholiques, encore une fois, pratiquants ou non pratiquants, mais qui sont héritiers dans leur culture d'une tradition catholique, acceptent le sens du mystère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de tout expliquer. Ah bon, ça, on ne le comprend pas. Et alors, moi, dans ma discipline, qui est la géographie, j'ai un certain nombre de collègues qui refusent le mystère ou l'inconnu. Ils ont des batteries de modèles. Ils pensent qu'ils peuvent tout expliquer avec ça. Et que s'il y a un truc qu'ils ne comprennent pas au jour d'aujourd'hui, ils le comprendront demain, c'est sûr. Et ça, pour moi, c'est le rationalisme. Et un chrétien ne peut pas être un rationaliste. Et un catholique encore moins qu'un autre chrétien.
Donc on s'avère aussi une part d'émerveillement, c'est ça ?
Il faut garder l'émerveillement et garder le sens du mystère. Il y a des choses qui dépassent l'esprit humain. Et moi, ça ne me gêne pas. Et en tout cas, ça ne doit pas gêner un catholique, et c'est quelque chose qui transparaît dans bien des aspects de la vie culturelle des pays qui ont été marqués par le catholicisme. C'est ce sens de l'émerveillement, ce sens de l'inutile aussi, du geste qui ne sert à rien. Et ça, c'est formidable.
Oui, on en revient à une mentalité aristocratique quand même. Le geste qui ne sert à rien, c'est une manière aristocratique d'aborder la vie, non ?
Pas nécessairement. Regardez chez des gens profondément catholiques et souvent pratiquants, qui sont les Brésiliens, regardez le carnaval au Brésil. Le carnaval au Brésil, c'est totalement inutile. C'est même de l'argent de fichu par les fenêtres, puisqu'on dépense des sommes folles, plusieurs mois de salaire pour se payer des plumes et des paillettes, pour aller danser dans la rue pendant 3 jours. C'est fou. Mais c'est la beauté du geste inutile. C'est l'art aussi. Le baroque et le rococo, ça ne sert à rien, sauf que rien n'est trop beau pour Dieu. Et que les gens les plus pauvres des pays où cet art baroque et rococo s'est développé étaient profondément touchés par cet art, de cette profusion d'or et de merveilles, alors qu'eux vivaient dans la misère et dans des fermes très pauvres. Mais pour Dieu, rien n'est trop beau. Donc c'est l'inutile, c'est l'inutilité du geste et de la beauté qui fait son intérêt.
Non, justement, est-ce que la disparition progressive ou le rejet progressif, malgré tout, quand même, par l'Église elle-même, qui a pris un tournant un peu austère, qui abandonne petit à petit les aspects sensibles de la liturgie, elle accorde désormais moins d'importance au pèlerinage, au pardon, au rassemblement...
Pas partout.
Non, en Europe en tout cas. N'explique en pas, Europe, pour une part... oui, en Europe, en France en tout cas.
Aller en Pologne, aller en Espagne, le pèlerinage, c'est quelque chose. La semaine sainte à Séville, ça demeure. Hein, et le pèlerinage à Częstochowa en Pologne, c'est quelque chose encore. Donc, mais en France, oui. En France, en Belgique, en Allemagne catholique, beaucoup moins en Italie, qui reste en Espagne et au Portugal, où on reste assez démonstratif et assez tourné vers des liturgies... un peu flamboyante, un peu triomphaliste même, disons-le. Alors encore plus au Mexique, encore plus en Amérique latine, encore plus aux Philippines, avec ce mélange de religions pré-chrétiennes. Mais
est-ce que ça n'explique pas cet amendement en France, quand même, où la chute quand mm-hmm. même, de la pratique est particulièrement forte, une ouais. part du désamour des populations pour cette religion,
bien sûr.
La mesure où on en fait quelque chose finalement de très cérébral, dès lors qu'on enlève ces aspects
sensibles. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, beaucoup de prêtres catholiques font des sermons interminables et complètement théoriques. Auparavant, le sermon était bref, et ce qui comptait, c'était la liturgie. Et on ne comprenait pas. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Chateaubriand l'écrit très 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 bien. Il dit, mais déjà, ce débat, ça remonte quand même à deux siècles. Chateaubriand disait, mais pourquoi abandonnerait-on le latin dans les églises comme les protestants, alors que la liturgie est faite pour célébrer le mystère ? Cette langue magnifique est la langue des Césars, dit-il, c'est le latin, elle est merveilleuse pour célébrer le mystère. Et si on ne comprend pas tout, ce n'est pas parce que c'est en français qu'on comprend, puisque c'est précisément l'indicible et l'incompréhensible. D'ailleurs, dans les catholiques français en particulier, qui ont complètement abandonné la liturgie traditionnelle latine, ce qui n'était pas une obligation liée au concile, c'était une autorisation, une permission, mais qui est devenue une obligation, récitent ou lisent des textes qui sont souvent assez compliqués hein, dans les traductions en français. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout ce qu'ils disent, même si c'est en français. Donc ça rejoint ce débat sur le mystère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un peu trop appauvri, alors pas partout, même en France, il y a un retour d'une certaine liturgie, d'une belle liturgie, mais on a souvent trop appauvri par souci de simplifier, par souci d'être accessible aux plus pauvres et aux moins cultivés. Mais on sait, c'est une très, très, très grave erreur. Les plus pauvres et les moins cultivés du peuple croyant étaient fous d'admiration devant cette liturgie. Par exemple, les anglicans ont beaucoup moins abandonné ça. On chante magnifiquement dans les églises anglicanes, l'architecture est très très belle, on restaure les couleurs des sculptures. L'anglicanisme est un protestantisme avec des couleurs catholiques. C'est très curieux ce mélange. Mais ils sont profondément protestants par ailleurs.
Mais parce que si on retire les rites, si on retire ce qui est sensible, que reste-t-il finalement ? Si on retire les rites et les mystères, il reste quoi ? Une morale ?
Il reste le divin, mais le divin, c'est très difficile de l'exprimer avec des mots. Donc l'art est un magnifique moyen d'exprimer le divin. Et le catholicisme est profondément, je vais utiliser un mot un peu savant, c'est que iconophile. On aime les images et les représentations. Alors que le protestantisme, comme le judaïsme, c'est en cela qu'il est proche du judaïsme, a été assez violemment iconophobe, a détruit iconoclaste même, a détruit des statues, a détruit des fresques. Quand on voit ce que sont les vieilles églises gothiques des Pays-Bas, par exemple, ou d'Allemagne du Nord, qui ont été converties en temples après la Réforme, on a enlevé les vitraux, les sculptures, les peintures. Donc ça, c'est de l'architecture, c'est très sobre, mais c'est vraiment austère. Vous me direz qu'il y a eu ça aussi bien avant la Réforme, quand vous voyez l'art cistercien par rapport à l'art clunisien. Donc certains sont profondément admiratifs de l'art cistercien, mais d'autres préfèrent l'art gothique ou l'art roman clunisien, avec des fresques de toutes les couleurs, ou l'art byzantin qui est une profusion. Simplement, l'art byzantin est en deux dimensions. c'est les icônes ou les mosaïques, c'est deux dimensions. Tandis que l'art catholique adore la représentation en trois dimensions. Donc, on représente Dieu, ou si c'est en peinture, on voit les volumes. Et moi, je reproduis cette fresque que je trouve absolument admirable et profondément catholique, qui a été peinte juste avant la Réforme, qui est dans la chapelle Sixtine, la création d'Adam par Dieu, que tout le monde connaît cette fresque, où Dieu tend le doigt vers Adam, et Dieu est éperdu d'admiration pour sa créature, et Adam est perdu de reconnaissance pour avoir été créé, mais le regard que s'échangent Dieu et Adam, qui sont des personnages très humains, un personnage d'un certain âge et un jeune homme de 20 et quelques années, c'est très sensuel, très charnel, et ça c'est le cœur du catholicisme et de la mentalité catholique. Donc cette chair, le protestantisme a voulu l'éliminer parce que Dieu est tellement inaccessible qu'on ne peut pas le représenter. C'est un sacrilège, exactement comme chez les juifs.
Alors précisément, dans ces différences entre le catholicisme et le protestantisme, qui permettent de mettre par défaut, en creux, par un jeu de miroir, ce qu'est le catholicisme, vous constatez quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, que les frontières entre les deux univers sont poreuses et évoluent, et qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui peuvent s'apparenter à une protestantisation des pays de culture catholique. À travers quel phénomène observez-vous ?
Dans bien des domaines, il y a une protestantisation, effectivement, des pays catholiques, alors que je ne sens pas de catholicisation des pays protestants, en Europe ou en Amérique. Alors en Amérique, si. En Amérique, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu l'immigration venue d'Amérique latine aux États-Unis, donc il y a des communautés latino-américaines aux États-Unis, nombreuses, et qui sont profondément catholiques. Puis il y a les communautés noires qui ont une vision aussi plus sensuelle, plus particulière, inspirée en partie par les vieilles cultures africaines, et la musique en particulier, qui est d'une très grande sensualité, qui est magnifique. Mais en Europe, il est certain que les idées venues du monde réformé, de l'Europe du Nord, progressent beaucoup vers le Sud. En particulier, je vais prendre un exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Si, deux exemples, sur le plan de la morale sexuelle, morale des rapports hommes-femmes, etc., et sur le plan de l'environnement. Aujourd'hui, beaucoup de catholiques sont très influencés par les idées venues des idéologies vertes d'Europe du Nord qui sont ancrées dans le protestantisme. Et l'encyclique du pape François qui s'appelle Laudato Si, qui remonte à 5 ans maintenant, est une encyclique qui aurait pu être écrite par un protestant. D'ailleurs, c'est qu'il y a eu beaucoup de très bonnes réactions à ce texte d'encyclique dans le monde protestant, dans la presse protestante. Donc ça a été très apprécié. Et pour moi, cette encyclique n'est pas très catholique. Il y a d'abord, il y a des erreurs scientifiques parce que le pape ne s'est pas assez entouré, malheureusement, de conseils avant d'écrire certaines choses. Et puis, il y a une espèce de respect exagéré de l'environnement, de la planète, alors que la planète n'est pas sacrée. Elle est, et tous les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament le disent, elle est faite pour l'homme. Alors à l'homme de la gérer avec suffisamment de sagesse, d'intelligence, de prudence, pour que ce soit durable. Le mot durable me convient très 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 bien. Mais pas pour mettre sous globe. La planète n'est pas l'image de Dieu. La seule image de Dieu, pour un croyant catholique, la seule image de Dieu, c'est l'homme. Dieu crée l'homme à son image. Il ne crée pas les loups, les ours, les icebergs, le Mont Blanc et l'Himalaya, c'est pas à son image. Certes, c'est la création de Dieu, et Saint François est très très clair, Saint François d'Assise est très clair à ce sujet, le soleil, la lune qu'il chante, les petits oiseaux, il chante la gloire de Dieu. Mais le seul être qui est à l'image de Dieu, pour un chrétien convaincu, c'est l'homme. C'est l'homme. Et donc, l'homme est au-dessus. C'est pas par hasard que et là, il suffit de relire la Genèse. L'homme est créé le sixième jour, et ensuite, Dieu, content de lui-même, se reposa, parce qu'il avait atteint le sommet. Dieu s'est reproduit lui-même. C'est extraordinaire. Et Dieu, tout ça, ce sont évidemment des textes qu'il faut lire au deuxième degré, symboliques, mais Dieu, fâché de l'ingratitude de l'homme, décide de le détruire, c'est le déluge, et Noé. Et à la fin, on oublie souvent cette partie de cette fin de l'histoire du déluge, donc qui sauve Noé, qui reprend goût, qui reprend vie sur Terre, etc., qui réintroduit la vie végétale et animale sur Terre. Et Dieu promet, comme s'il avait, il était repentant, promet de ne plus jamais détruire l'homme. Et il le dit clairement, bon, j'ai fait ça, mais je le ferai plus jamais, c'est terminé. Alors, il y a d'autres punitions, hein, la tour de Babel, etc. Il y a plein de punitions qui arrivent sur l'homme. Il y a les plaies de la traversée du désert d'Égypte, l'esclavage des Hébreux, tout ça. Dieu sait si Dieu envoie des calamités sur l'homme, mais il ne le détruit plus jamais. Et ça, c'est l'affirmation définitive de cet acte auquel tout croyant, juif, monothéiste même, devrait croire. Dieu est le sommet de la création. L'homme est le sommet de la création de Dieu.
Oui, l'homme est au centre, en tout cas.
L'homme est au centre, oui. Et il y a eu un film, il y a très longtemps, qui était une illustration du livre de Kefelec, un recteur de l'Huile des Saints, et du Vivier, je crois, qui est le metteur en scène, avait appelé ça « Dieu a besoin des hommes ». Et je trouve que c'est un titre absolument magnifique, qui est profondément ancré dans le catholicisme, mais même dans les Saintes Écritures.
Dans les débats intellectuels qui occupent nos sociétés aujourd'hui, au-delà de cette protestantisation, enfin vous y voyez la source, ou en tout cas vous constatez qu'un certain nombre de grands courants aujourd'hui viennent de cette ère culturelle. Il y a donc, vous l'avez dit, cette écologie radicale intégrale, l'écologisme, mais aussi...
Il n'est pas de l'écologie qui est une science, oui. L'écologie.
Oui, qui est une idéologie.
J'essaie de pratiquer, c'est une idéologie, bien sûr.
Compris. Mais aussi le véganisme, mais aussi le post- ou le transhumanisme. Au fond, est-ce que ce à quoi nous assistons, au-delà quand même des difficultés du catholicisme ou du christianisme aujourd'hui, c'est pas un effacement de l'humanisme, tout simplement?
Ah ben si, bien sûr. À partir du moment où vous considérez que les vaches, les moustiques, les fleurs des champs ont la même valeur que l'homme, vous êtes dans l'anti-humanisme, forcément. Puisque l'homme a besoin du règne minéral, du règne végétal et du règne animal pour vivre. En plus, il a une constitution physique qui le fait omnivore. Donc décréter que l'homme ne doit pas manger de viande parce qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux, pas manger de fromage parce que traire les vaches ou les chèvres, ça les fait souffrir, on est dans l'anti-humanisme le plus total. Et ce qui est très curieux, parler de transhumanisme, c'est que ça n'empêche pas un certain nombre de gens qui sont pénétrés de ces valeurs, et qu'on pourrait respecter, si par ailleurs, ces gens-là n'étaient pas souvent prêts à admettre volontiers, je vais être extrêmement clair, qu'on puisse fabriquer des enfants totalement en éprouvette, sans savoir qui est le père, sans savoir qui est la mère, qu'on puisse avorter à 8 mois et demi. Donc, pour moi, ça m'apparaît totalement incompréhensible. Alors là, ça vient même pas du protestantisme, même si ces questions-là sur la PMA ou la GPA ont été un peu plus précoces, enfin, du moins, l'acceptation de ces pratiques qui a été un peu plus précoce dans les pays protestants catholiques. Aujourd'hui, c'est souvent mélangé. Mais le fait de vouloir préserver les animaux et de n'avoir aucun respect pour l'humain, et en particulier dans l'humain le plus fragile, qui est l'enfant, juste avant de naître, par exemple, ou l'enfant à naître, est quelque chose qui marque, alors là, vraiment un abandon des valeurs les plus fondamentales de ce qui fait la condition humaine, de l'humain, tout simplement, toute religion confondue.
Du reste, un certain nombre d'entre eux laissent entendre, sans trop se gêner, qu'une disparition de l'humanité de la surface de la Terre serait plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est ça. Oui, vous avez une attitude assez très très curieuse, bon, qui remonte à Malthus. Déjà, on est trop nombreux sur Terre, complètement, complètement absurde. On est 7 milliards et demi, et beaucoup de régions de la planète où l'on pourrait vivre fort bien sont vides. Et les régions où on n'est pas très nombreux en densité de population sont des régions très misérables où on vit extrêmement mal. Mais la richesse ou le bien-être n'ont rien à voir avec la densité de population. Alors, en tant que géographe, il n'y a pas besoin d'être catholique, protestant ou tout ça pour dire ça. C'est l'évidence même. Il n'est de richesse que d'hommes, comme disait Jean Bodin, mais d'hommes éduqués à condition que l'homme soit éduqué, responsable et pénétré des valeurs de l'humanisme. Et pénétrer du sens des responsabilités, du respect de l'autre, enfin toutes ces valeurs qui font l'humain, qui sont à la limite même sans rapport direct avec la religion. Mais quand on abandonne ces valeurs qui font l'humain, non seulement on devient pessimiste, mais ça aboutit aussi à des catastrophes. Regardez les pays les plus pauvres du monde, ceux où une majorité de la population est en dessous du seuil de pauvreté, où l'espérance de vie est courte, où on meurt en bas âge, etc., sont des pays qui sont mal gouvernés, des pays gouvernés par des régimes dictatoriaux effroyables, où les enfants ne vont pas à l'école. Donc la misère, c'est l'homme qui en est responsable. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas la densité de population, c'est le fond même de l'esprit humain.
Alors face à ces pensées de type apocalyptique, pensez-vous que le message catholique ou la sensibilité catholique reste une issue ?
Alors, pour moi, oui. Et ça a fait vivre de belles civilisations. Hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art, on ne peut pas nier quand même que le catholicisme ait été un facteur de création artistique et d'inventivité extraordinaire. Le protestantisme, par ailleurs, aussi. Hein, et le judaïsme, n'en parlons pas. Quand on voit le nombre des prix Nobel par rapport à la population juive à la surface de la Terre, le nombre des prix Nobel qui sont d'origine juive, c'est extraordinaire. Donc je suis profondément admiratif de ce qu'ont pu engendrer, et d'autres religions aussi, le confucianisme, etc. Mais le catholicisme a ce fond d'optimisme et ce fond de tranquillité aussi, d'acceptation des choses sans pessimisme et sans refus de l'action. Une espèce d'équilibre qui est très difficile, et qu'il faut renouveler en permanence, mais cette espèce d'équilibre entre l'attente de la grâce et en même temps l'action tranquille pour s'aider soi-même. Et toi, le ciel t'aidera, ça fait partie, je pense, de la mentalité catholique profonde. Et c'est une très belle culture qui mériterait de revivre. Alors simplement, je ne suis pas sûr que les catholiques d'aujourd'hui, pratiquant, enfin connaissant leur religion, la pratiquant, recevant les sacrements, réfléchissent assez et fassent vivre leur héritage. Parce que toute culture, religieuse comme autre d'ailleurs, doit vivre. On ne peut pas la mettre sous globe. On ne peut pas se contenter d'appliquer des règles écrites d'un catéchisme. Tout ça doit être vécu et par conséquent en évolution. Moi, ça ne me choque pas que le pape actuel ou d'autres papes aient dit des choses. Quand Léon XIII a publié les encycliques sociales, ça a dû choquer un certain nombre de bourgeois catholiques qui allaient à la messe tous les dimanches. Mais de quoi le pape se met ? C'est qui nous laisse s'occuper de nos ouvriers, c'est pas à lui de nous donner des leçons. Bon, et pourtant, c'était bien nécessaire et ça a été pionnier et précurseur. Donc, cette religion, comme toute religion, et c'est ce que je reproche un petit peu à l'islam profondément, j'ai vécu 2 ans dans un pays musulman, en Mauritanie, et j'ai enseigné l'histoire de l'islam, je regrette qu'aujourd'hui il y ait si peu d'intellectuels musulmans qui réfléchissent au fondement de leur foi, aux textes sacrés, au Coran en particulier, pour le faire vivre aujourd'hui et pour non pas l'adapter, non pas enlever ce qui gêne par rapport au monde contemporain, mais pour nourrir le monde contemporain d'une éthique qui soit réellement au service de l'homme. Et aujourd'hui, on est dans une espèce d'appauvrissement, d'assèchement de l'islam qui va alors chez les plus incultes jusqu'au drame de l'islamisme et de la criminalité. Donc là, pour le moment, dans le catholicisme, il n'y a pas ça. Il y a eu des périodes par inculture la plus totale. Pensez aux guerres de religion, quelle honte. Et pensez aux Première et Deuxième Guerres mondiales entre, pour une majorité, des peuples chrétiens. L'Allemagne, la France, les États-Unis, la Russie.
Qui n'ont pas été faites au nom de la religion, hein, quand même.
Non, mais avec un rapport assez...
assez décontracté à la violence.
Assez décontracté, oui, tout à fait, pour des gens qui, par ailleurs, allaient à la messe ou au temple tous les dimanches.
Écoutez, je retiens cette idée qu'il faut ne pas tomber dans la calcification, mais faire vivre les choses, entretenir son jardin spirituel, comme on le ferait d'un véritable jardin. Il y a d'ailleurs de très belles pages sur les jardins et la vision catholique et française des jardins. Ça fait partie des nombreux agréments du livre. Donc se promener dans le jardin, l'entretenir, le cultiver, et pour cela, un des chemins les plus courts, c'est de se plonger dans votre ouvrage « La planète catholique, une géographie culturelle » par Jean-Robert Pitt aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.